Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, sur RTL dans la curiosité, on apprend à survivre dans un monde de brutes. Bonjour Éléonore Luna.
Bonjour.
Bienvenue.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Vous êtes organisatrice de stages de survie. Le survivalisme, c'est comme ça qu'on appelle ça. Il y a un salon d'ailleurs en ce moment à Paris. C'est quoi ?
Le survivalisme, c'est le fait d'être capable de survivre en toute situation. C'est un concept qui est sorti un petit peu il y a une bonne trentaine d'années maintenant, ouais. Même un peu plus des États-Unis, et qui a migré tranquillement chez nous et qui s'est un peu adouci. On est passé des preppers un peu post-apocalyptiques américains à quelque chose d'un peu plus orienté autonomie en France.
Mais aujourd'hui, quelles seraient les raisons de vivre en autonomie, de survivre là dans nos quotidiens d'urbains ou de gens qui vivent à la campagne ?
Alors, il y a plein de raisons. Déjà, moi, je suis plutôt orientée survie en pleine nature.
Ouais, ouais.
Donc, c'est de l'autonomie en pleine nature. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut se perdre en randonnée. On peut avoir une avarie matérielle. On peut perdre son eau, percer sa poche à eau. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour se débrouiller en pleine nature. Et puis, en ville, il y a plein de raisons aussi. Il peut demain y avoir une grève. On voit que les supermarchés fonctionnent en flux tendu. 72 heures, il n'y a plus de stock, il n'y a plus rien. Donc, comment on fait ? Comment on se débrouille ?
Heureusement, vous êtes là.
Bah voilà. Vous allez nous donner plein de bons conseils. Et heureusement, on n'est pas obligé d'attendre la fin du monde pour appliquer ces conseils. À tout de suite sur RTL.
Voici la situation.
RTL.
Vous êtes tous en visite à Berlin en tant que touristes. Et là, il se passe quelque chose. Notre mission consiste à nous replier ici, dans une forêt près de Berlin.
La curiosité est un vilain défaut.
On explique toujours aux participants le scénario, pour qu'ils connaissent la nature de l'urgence et qu'ils sachent pourquoi il faut agir. Ils doivent pratiquer les premiers secours dans la forêt, construire des brancards, ressentir cette urgence.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Survivor, ça c'est la version américaine de Koh-Lanta. Et bien nos invités sont en permanence dans cet état sous haute tension. Nous sommes avec Éléonore Luna, ancienne infirmière, organisatrice de stages de survie, et Denis Tribaudeau qui nous a rejoint. Vous organisez vous aussi des stages de survie. D'ailleurs, vous revenez d'un stage en République Dominicaine. Qu'est-ce que vous avez affronté là pendant une semaine et appris à affronter?
Ben, j'étais sur une île déserte avec des clients et je leur ai appris à survivre, à boire de l'eau saumâtre, affronter les crabes qui nous attaquent, les scorpions, les migales, etc.
Mais c'est parce que vous êtes parano que vous faites ça ?
Ou non,
que vos clients sont parano ? Ou
Peut-être que mes clients Peut-être que mes clients sont parano. Moi, je gagne ma vie comme ça. Donc tant mieux qu'il y ait quelques parano qui veulent venir avec moi sur une île. Mais non, c'est trouver du plaisir dans l'effort, dans l'équilibre que l'on a avec la nature, c'est reconnaître ses dangers, ses limites, etc. et les repousser pour être plus fort à la fin et avoir plus confiance en soi.
Voilà. Et Éléonore Luna, c'est ça ? Vos clients, les gens que vous formez, ils ont besoin de se rassurer ?
Oui, il y a un peu de tout en fait. Il y a des gens, ça va être pour gagner en autonomie effectivement en pleine nature, donc un public très familial. Qui veulent transmettre à leurs enfants, qui veulent du coup quelques clés pour être plus en sécurité, comme on ferait un stage, une formation en premier secours. Mm-hmm. Et puis il y a des gens qui ont envie un peu plus de se confronter à des difficultés. C'est les gens qui vont choisir des stages un peu plus velus.
Velus, d'accord, avec des bêtes à poils, quoi, c'est ça.
Entre autres.
Qui piquent. Je lisais que
qui mordent.
Qui a une bible. En fait, du survivalisme, parce qu'on appelle ça comme ça, du survivalisme, qui est américaine, qui s'appelle la stratégie alpha. Est-ce que c'est votre bible à vous ?
Non.
Non.
C'est quoi ?
Ben c'est. Il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas de bible. Chacun voit midi à sa porte, quoi.
C'est quand même un concept américain, le survivalisme.
Oui, d'accord, mais ça a été le premier livre et ça a fait référence encore dans les milieux survivalistes, on va dire un peu. À dire borderline ou. J'allais dire extrémiste, c'est pas.
C'est quoi ces milieux borderline ? Par exemple, c'est des gens qui imaginent que la fin du monde est pour demain, c'est
ouais,
ça
voilà. Ouais. La stratégie alpha, ça parle aux deux tiers de l'effondrement économique. Voilà, la crise économique mondiale, etc. Mmh. Un peu de missiles russes qui tomberaient sur les villes américaines, etc. Mais essentiellement sur ne mettez pas votre argent à la banque. Voilà, achetez plutôt des lingots d'or et encore. Et repliez-vous sur vous-même et faites une vie en autarcie, etc. Bon, moi, ça me rappelle beaucoup ce que l'on vit des samedis après-midi en France depuis 18 week-ends. Quoi. C'est assez rigolo que cette actualité-là soit en phase avec avec ce livre, avec tout compte fait, qui alpha. Date de 50 ans.
Ouais. Oui, mais est-ce qu'il y a un lien quand même parce que là, on parle de motivation, mais le survivalisme, est-ce qu'il est accéléré, popularisé, notamment par la guerre froide, notamment par cette période-là où on croyait que la famine...
Alors, les Américains ont eu toujours un temps d'avance sur nous, et c'est vrai qu'ils ont lancé ce mouvement-là, mais ça date des années... des pionniers américains du 19e siècle.
Ah,
ça
a commencé.
Les preppers, les survivalistes, la première fois qu'on a parlé des survivalistes, c'est pour définir les pionniers américains. Les mineurs, vous savez, qui allaient mettre leur toit de tente dans un canyon pour extraire de l'or, c'était des survivalistes. Mmh. Parce qu'ils vivaient en totale autonomie et en autarcie pour extraire l'or. Donc ça ne date pas de ça. Après, la guerre froide, l'effondrement économique, la peur de ce qu'on ne connaît pas, les zombies et compagnie, bon, bah, ça nourrit ça. Puis après, les émissions de télé, l'air du temps, on vit une période un peu anxiogène, etc., fait que bah, c'est une tendance qui grossit. En définitive.
Et Léonore Luna, est-ce qu'il y a dans les gens que vous formez beaucoup de personnes qui se préparent justement pour les émissions de télé ou qui rêveraient d'y participer au Koh-Lanta et autres émissions?
Il y en a une partie, ouais, il y en a quand même pas mal. C'est vrai que c'est allé dans l'air du temps, c'est à la mode. Là, on s'éloigne un peu des preppers américains qui justement vont avoir un bunker chez eux et vont s'armer jusqu'aux dents. On est plutôt généralement dans des gens qui cherchent un peu le dépassement de soi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Denis. Et des gens qui vont chercher à aller tout seul sur une île déserte ou voilà.
Et puis ce qui est sympa, c'est qu'on entend dans vos deux voix qu'il y a quand même de la joie et du plaisir à apprendre à survivre en ville et dans la nature.
Moi, j'ai une voix plus grave qu'elle.
Mais c'est vrai qu'Éléonore est très souriante. C'est du le bonheur, c'est quoi? C'est de se dépasser. C'est d'être autonome.
Il y a une partie de dépassement de soi. Il y a surtout l'autonomie. Il y a un côté on vit vraiment au rythme de la nature. On apprend à se débrouiller complètement avec ce que la nature nous offre. C'est.
Et ben justement. Avec tous les deux, avec vous deux, on va apprendre à survivre. On va préparer déjà pour commencer un sac. Je crois qu'il doit faire un cinquième de notre poids. On va voir ce qu'on met dedans et comment on s'en sert.
J'ai pris quelques kilos récemment, ça m'arrange.
Ah bah vous partirez sans rien, c'est pas grave. Vous débrouillerez. Allez, à tout de suite les curieux.
Jusqu'à 15h.
Je m'appelle Robert Neville. Je suis un survivant. Je vis à New York.
RTL.
J'émets sur toutes les ondes courtes.
La curiosité est un vilain défaut.
Si vous m'entendez. Si quelqu'un m'entend.
Thomas Hugues.
J'ai de la nourriture.
Sidonie Bonnec.
J'ai un refuge. Vous serez à l'abri.
Je suis une légende, extrait de ce film de 2007 avec Will Smith dans le rôle principal. Nous aussi, on apprend la survie sur RTL avec nos invités. Éléonore Luna et Denis Tribaudeau, vous êtes l'une et l'autre organisatrice, organisateur de stages de survie. Alors, on met quoi dans notre sac, Denis Tribaudeau, si on essaye de se préparer à une expérience de survie en milieu urbain?
Alors, en milieu urbain, il faut toujours avoir son sac d'évac. On appelle ça un sac d'évac et évacuation, près un petit 40 litres. Voilà. Et puis, on met l'essentiel, c'est-à-dire des habits de rechange, deux ou trois sources de feu, briquet, allumette, et puis fire steel, par exemple.
Et quoi, fire?
Et fire steel, c'est un bâton qu'on frotte qui fait des grosses étincelles qui sortent à 2000 degrés, mais ça dure quelques dixièmes de seconde. Faut un petit coup de main et on fait du feu. Et même si c'est mouillé, même si on le détériore, ça marche toujours. Alors qu'un briquet, c'est de la haute technologie. Hein. Le briquet, il peut se détraquer, il peut plus. S'il a plus de gaz, il marche pas. Si on est en altitude, le gaz part pas bien, etc. Donc, il a moins de 100 ans, le briquet. Hein.
Donc, il faut de quoi faire du feu.
Ouais,
quoi d'autre?
Alors, des vêtements, quelle couleur? Parce qu'il y a des choses. Moi, je prendrais du kaki, mode commando. Non,
en ville,
non.
Je donne un exemple. Je reviens. J'avais un client qui était comme ça à l'aéroport. Bah, le seul qui s'est fait arrêter, qui a eu des ennuis, c'est lui. Quoi.
Ah, faut être habillé comme monsieur tout le monde, c'est-à-dire. Gris bleu,
low profil.
C'est
voilà.
Gris.
Ouais. Gris. Il faut passer inaperçu en définitive. Il faut être dans le décor, quoi.
Et ce qui est assez passionnant dans ce que vous nous racontez,
oui,
c'est qu'en
sais,
fait,
ouais.
Il faut. Ouais, bon, ouais. Il faut revenir. J'adore. Vous êtes dans le ton de l'émission, c'est bien. Il faut revenir vers le basique, en fait. Il faut pas.
Ouais, basique,
la haute technologie.
Mais c'est juste du bon sens, ouais. Tout ça. C'est rien que ça. Et des fois, on a perdu ce bon sens. Ça fait deux générations qu'on vit dans les villes. On n'a plus le grand-père agriculteur. On n'a plus quelqu'un qui nous ramène à la terre, à l'essentiel. Et puis, ben, on est comme des couillons si jamais on n'a plus d'électricité, plus de chauffage, s'il y a une petite inondation, s'il arrive un grain de sable dans notre belle ville qui est, enfin, la belle mécanique qui est une ville, quoi.
Oui, et puis on peut, on, là, là, peut-être des gens qui nous écoutent disent, mais ça n'arrivera jamais. Sauf que si on se souvient,
faut tempête, jamais dire jamais,
ouais. Tempête de neige, je ne sais plus quelle date c'était.
L'année dernière,
la nationale
Paris,
118 qui mène vers, vers la sortie de Paris, complètement bloquée, des centaines de personnes qui ont dû dormir dans leur voiture. Bref, ça peut arriver.
Ça peut arriver, il faut prévoir l'imprévisible.
Et Léonore, Luna, vous prévoyez l'imprévisible, mais plutôt dans la nature. Si on complète ce sac à dos, il faut aussi mettre des cartes et de bonnes cartes. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, avec un lot de cartes pas très très bien choisies ?
Ouais, c'était, bon, ça remonte déjà il y a quelques années maintenant. J'ai été partie en randonnée en montagne avec la carte, mais c'était la bonne carte hein, de la région. Tout allait très bien.
Mais...
Et je suivais le chemin et j'étais parfaitement sûre d'être sur le chemin. Mais en réalité, j'étais pas trop sur un chemin. J'étais juste partie avec les cartes de mon grand-père et j'ai oublié le détail que le terrain change plus vite que les cartes. Donc la carte qui avait 20 ans n'avait pas bougé, et, sauf qu'entre-temps il y a eu des éboulements et donc j'étais en train de me balader dans un pierrier, c'était un peu casse-gueule.
Alors justement, quand on se retrouve dans cette situation, si on est complètement perdu dans une forêt ou à la montagne, comment on fait pour retrouver la civilisation ? Est-ce qu'il y a, alors moi j'avais entendu parler, c'est mes grands-parents qui disaient ça, fais attention aux mousses, si t'as des mousses sur tel côté de l'arbre, ça veut dire que ça indique le nord. Bon, moi j'ai, je me suis jamais perdu, donc j'ai jamais eu l'occasion de tester, c'est vrai ou pas ?
Parce que c'est une indication.
Ça marche les mousses ou pas ?
Ça peut marcher.
Trop, ouais. Non, ça marche
moi,
pas.
Moi, la seule fois où j'ai vu que ça marchait, c'était dans la forêt noire en Allemagne.
Ouais.
Là, c'est sûr que là, la mousse était rangée à l'allemande, bien nord-est.
Et en France, on est plus anarchique, je crois.
Ouais, voilà,
qu'est-ce qu'on fait alors, Éléonore, Luna, dans ces cas-là ? On suit quoi pour se retrouver ?
Ça va dépendre de ce qu'on a. Soit on a la boussole et puis on va essayer de garder un cap et de toujours marcher à peu près dans le même sens, dans la même direction. Après, heureusement, on a quand même souvent des chemins, donc on va essayer de suivre les chemins. Si on a la chance de trouver un cours d'eau, on va suivre le cours d'eau en redescendant, c'est toujours là où il y a les habitations, c'est un bon élément aussi, et puis en plus on est sûr de ne pas manquer d'eau.
Mais elle a dit, vous avez dit une chose essentielle, c'est que pour sortir de la survie, il faut rejoindre ses congénères. Et en survie en ville, c'est quasiment l'inverse, il faut la fuir la ville pour aller à la campagne. Parce que les congénères sont source de danger.
Ah, des ennemis potentiels, pourquoi ?
Eh ben oui, en ville, tout s'arrête, tout le monde veut vous piquer vos boîtes de conserve, quoi. Et tout le monde en veut à votre technologie, etc. Donc c'est marrant, c'est à double tranchant.
Oui.
Alors, c'est ça qui est passionnant.
Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors vous publiez l'un et l'autre un livre, c'est l'instant promo. On va les citer.
Alors,
Denis Tribaudeau, le guide de la survie en ville, c'est aux éditions Le Courrier du Livre.
Et pour vous, Éléonore, ça sort en avril. Ça s'appelle Redécouvrez le chasseur-cueilleur qui est en vous. C'est chez Rustica Édition. Bah tiens, justement, dans un instant, on pourrait se raconter comment trouver de la nourriture dans la nature.
A tout de suite sur RTL.
Allô ?
Kate, lâche ce que t'es en train de faire.
Jackson ?
Écoute bien, j'ai loué un avion, fais les bagages des petits, je suis là dans 5 minutes.
Un avion ? Mais de quoi est-ce que tu parles ?
Kate, la Californie est en train de couler !
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est pas vrai, on croirait entendre un illuminé. Le gouverneur vient de dire qu'on ne craint plus rien.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est un ex-acteur, il récite un script. Quand ils te disent « pas de panique », c'est qu'il faut fuir.
Sur RTL.
Je te survivrai.
On est en mode survie dans ce film de science-fiction 2012. Et puis Jean-Pierre François qui chante « Je te survivrai » pour apprendre à survivre de formidables...
On écoute de la bonne musique dans la curiosité. Hier, c'était à la queue leu-leu, Bézu...
Il y a de tout pour tous les goûts. Merci François Touchard. Nous sommes avec deux organisateurs de stages de survie, Éléonore Luna et Denis Tribaudeau. Tiens, on va apprendre à survivre dans la nature. Quand on part à l'aventure et qu'on n'a plus de barres de céréales, on mange quoi ? Est-ce qu'on peut se nourrir d'à peu près tout, Éléonore ?
Alors non, pas d'à peu près tout. Il faut déjà être sûr de ce qu'on mange. Ce qu'il y a de plus simple, de plus facile, ça va être les plantes sauvages. Parce que, bah heureusement pour nous, elles ne se défendent pas beaucoup et elles ne s'enfuient pas trop. Donc ça ne demande pas trop d'énergie de les cueillir. Il faut juste être sûr de ce qu'on cueille.
Comment on fait ?
Il faut les connaître, il faut apprendre à les identifier. Il y a des techniques qui sont assez discutables, enfin qui sont efficaces mais qui sont compliquées, qui consistent à frotter une plante à l'intérieur de son avant-bras, d'attendre 15 minutes, puis à l'intérieur de sa bouche, puis d'attendre 15 minutes.
Il ne faut pas être trop affamé, quoi.
Il ne faut pas être trop affamé, et voilà, il ne faut pas avoir peur. Mais...
Et si on n'a pas d'eau, et si on n'a vraiment plus d'eau, qu'on n'en trouve pas, est-ce qu'on peut boire son urine ? On entend souvent ça, que c'est vraiment la solution,
c'est in extremis.
Non, alors ce n'est pas un fantasme, ça doit être une nécessité. Est-ce qu'on boit son urine ? Vous l'avez déjà fait ?
J'ai déjà fait, oui. Je ne conseille
mais
pas.
Mais pour tester ou par obligation ?
Par obligation.
C'est
dans
chaud.
Quelles circonstances ?
Et un peu salé.
Ouais, non, là, c'était trash. Hein. Voilà,
vous n'aviez pas le choix, c'est ça ?
J'avais pas le choix. C'était au Botswana, en fait. J'ai passé plus de 48 heures sans boire. Donc au Botswana, il fait assez sec, assez chaud, c'était un peu compliqué. Et il y a un moment où l'eau, ça devient... on est obnubilé, il n'y a plus que ça qui compte. Mmh. Et ne trouvant pas d'eau, j'en viens à l'extrême de me dire que je vais boire mon urine. Donc elle reste stérile pendant 15 minutes, on peut la boire dans les 15 minutes qui suivent.
C'est pas dangereux, donc pour la santé?
Alors, c'est pas très conseillé. Ça reste des déchets humains quand même, de l'urée qu'on élimine. C'est pas très conseillé. Par contre, ça permet de gagner quelques heures d'hydratation quand on a vraiment, vraiment pas le choix. Faut juste avoir envie d'y aller. Quoi.
C'est ça qui fait sauver la vie, c'est avoir quelques heures en plus.
Ouais. Ouais. Denis Tribaudon, on termine avec une dernière anecdote qui nous a fait forcément rire quand on a préparé l'émission. Vous savez déjà de quoi je vais vous parler.
Comment ça vous connaître?
On veut faire du feu, mais alors on n'a pas les outils dont vous parliez tout à l'heure.
Mais heureusement,
on a toujours sur nous un préservatif.
Non, mais sans rigoler, on peut avoir ça. On n'est jamais nu quand on est en survie.
C'est bien d'en avoir tous.
Bah oui, parce que ça peut sauver la vie.
Mais alors, attendez, comment on fait du feu avec un préservatif?
Alors, il faut payer et venir à mes stages pour ça.
Non.
Non, mais en réalité, il y a
donnez
un grand principe.
Donnez la moitié de l'explication, allez.
Un grand principe, c'est l'effet loupe. Il y a 3-4 familles de fabrication du feu. Il y a par le frottement, par percussion. Et puis, je passe les détails. Et le soleil, l'effet loupe. Et il suffit de remplir un préservatif d'eau claire, d'en faire une belle boule, puis de le mettre en plein soleil. Alors, il faut avoir du soleil, avec un petit peu d'amadou.
Mais il ne va pas exploser, le préservatif?
Non, le préservatif, c'est très solide. Alors j'en ai testé.
On vous fait confiance?
Arrêtons-nous là.
On peut faire du feu avec des préservatifs roses, noirs, goût banane, goût fraise, picot, avec réservoir, sans réservoir,
voilà,
ça marche.
Voilà une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Denis Tribaudeau. Le guide de la survie en ville, c'est aux éditions Le Courrier du Livre.
Et le site internet www.stage-survie-tribaudeau.com. Et pour vous, Éléonore Luna, ce livre qui arrive en avril, Découvrez le chasseur-cueilleur qui est en vous chez Rustica Éditions.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.